soir, je vais vous enseigner un message intitulé « La bataille est du ressort de Dieu » tiré de 2 Chroniques 20. Allez donc à 2 Chroniques 20. Je suis sûre que nous aimerions tous partir d'ici ce soir en croyant « Dieu merci, je ne dois plus combattre désormais ». La bataille est du ressort de Dieu. Je peux me reposer et jouir de ma vie pendant que Dieu combat pour moi. Qui peut dire « Amen » à ça? La chose que vous devez faire quand vous avez un problème, et vous verrez que Josaphat a fait ça, c'est, même avant de demander à Dieu de répondre à votre besoin, de passer un moment à le louer. Verset 5. Josaphat se tint dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison du Seigneur en face du nouveau parvis. Et il dit, « Seigneur Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux et toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main il y a force de puissance et nul ne peut s'affronter avec toi. » Vous voyez, il dit à Dieu à quel point il est grand. Non, mais plusieurs nations venaient en fait contre Josaphat, mais il n'a pas encore raconté son problème à Dieu, bien que Dieu connaisse déjà son problème. C'est intéressant de voir qu'il a cherché Dieu, et qu'avant de faire quoi que ce soit, il s'est mis à louer. Je crois que la louange devrait toujours précéder la demande. Allez, qui croit que la louange devrait toujours précéder la demande? Je crois que nous ne devons jamais présenter notre liste de souhaits à Dieu avant de prendre le temps de lui dire à quel point il est grand et merveilleux, combien il a fait pour nous, à quel point nous apprécions ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, il dit, n'est-ce pas toi? Écoutez bien, maintenant il va faire là un peu de psychologie. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité et ils y ont construit pour toi un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il vient sur nous un malheur, épée, châtiment, peste ou famine, si nous nous tenons devant cette maison et devant toi, car ton nom est le symbole de ta présence et dans cette maison, et si nous crions vers toi dans notre détresse, tu exauceras et tu nous sauveras. Et maintenant, Seigneur, après avoir dit tout ça, voici ces fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer après sa sortie de la terre d'Égypte, puisqu'il s'est détourné d'eux et ne les a pas anéantis. Et voici ces gens-là qui nous récompensent en venant nous déposséder de ta propriété. Vous devriez revoir ce passage pour le comprendre. J'ai étudié ce passage et je l'ai étudié, mais pour moi, il fait cette partie de psychologie. C'est comme s'il disait à Dieu, « Nous avons eu l'occasion de les détruire à un moment donné, mais tu ne nous l'as pas permis. » Nous les avons donc laissés vivre et regarde ce qu'ils nous font. Ils nous récompensent en venant contre nous et Dieu, nous voulons te rappeler que c'est ton pays que tu nous as donné qu'ils essayent de nous enlever. C'est comme si je disais à Dieu, « Eh bien Dieu, c'est ton ministère que tu m'as donné. C'est toi qui m'as donné la grâce de faire tout ce travail. Et donc maintenant Dieu, s'il y a un problème, je m'attends à ce que tu t'occupes de ce qui t'appartient. » Ce sont tes enfants, Dieu, que tu m'as donnés, et tu m'as promis que si je te les rendais, tu t'occuperais d'eux. Et maintenant, il paraît que l'un d'eux va détruire sa vie, Dieu. Et donc, ce sera mal vu pour toi, car je proclame où que j'aille à quel point tu es bon. Il fait un peu de psychologie, là. Non, mais attendez voir. Il dit essentiellement, veux-tu être embarrassé pour ne pas avoir pris soin de nous? Et Moïse a fait la même chose quand Dieu allait détruire les Israélites. Il lui a dit, nous avons dit à tout le monde, à quel point tu es grand, ça ne va pas être très bien vu. Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, ce qui donne à quelqu'un le courage d'avoir ce genre de conversation familière avec Dieu, cette communion et cette relation étroite et intime dont je vous parle maintenant, il parlait à Dieu comme il parlait à un ami très intime. Et Dieu veut que nous ayons ce genre de relation avec lui. Nous devons arriver au point où si nous ne savons pas quoi faire, nous n'avons pas honte de dire que nous ne savons pas quoi faire. Nous disons simplement, je n'ai pas la moindre idée de ce que je devais faire. Je suis tellement accablé et tellement écrasé que je n'ai pas la moindre idée du moyen de m'en sortir. Mais tu sais quoi? Je connais un Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas, mais je connais celui qui sait. Et je sais qu'au bon moment, peut-être l'heure de minuit, mais au bon moment, il va me parler et il va me délivrer. Et Dieu ne me décevra pas. Amen. Je déteste quand je ne sais pas quoi faire et que le diable n'arrête pas de m'importuner. Eh bien, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et vous savez, dans mes premières années avec Dieu et pendant longtemps, je ne voulais pas dire « je ne sais pas quoi faire ». Je croyais de tout mon cœur que je devais avoir les conseils divins à tout moment de ma vie. Mais je crois que parfois Dieu nous mène et Dieu nous guide et nous ne comprenons vraiment pas ce qu'il fait. L'attente fait partie de ça et l'attente n'est pas toujours la partie facile. Revoyons de nouveau ce verset qui est assez important. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux ? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous. » Numéro 1, nous ne savons pas quoi faire. Combien d'entre vous sont en ce moment dans une situation où vous ne savez pas quoi faire? Ça va. Ce n'est pas grave. Vous ne devez pas vous sentir sous pression. Vous pouvez tout de suite vous défouler et vous pouvez dire, ah, vous ne devez pas vous sentir gêné quand vos amis vous disent « Que vas-tu faire ?» Vous n'avez pas horreur de ça? Vous ne savez pas quoi faire et tout le monde vous dit « Que vas-tu faire ?» Dites juste, je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée, je n'en suis pas stressée car soit que Dieu soit Dieu, soit qu'il ne le soit pas. Et je crois personnellement qu'il est Dieu et donc il va me montrer quoi faire exactement au bon moment où j'aurai besoin de le faire. Nous n'avons pas ce qu'il faut sans Dieu. Nous savons que faire, mais Dieu, nos yeux regardent vers toi. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Tous les jours de ma vie, je ne crois pas qu'il y ait un seul jour où je ne dis pas « Dieu, je ne suis rien sans toi ». Avant d'oser de venir à chacune de mes réunions, « Dieu, je ne suis rien sans toi. Si tu ne m'aides pas, je serai un grand gâchis. » Et j'ai prêché des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de fois. Mais je sais que je ne peux pas faire ça correctement sans Dieu. L'humilité est la plus belle vertu que nous puissions acquérir. Jésus était humble, doux et modeste. Il se soumettait toujours à la sagesse du Père et au conseil du Père. Prenez votre décision dorénavant que quand vous aurez des problèmes, la première chose que vous allez faire, c'est de chercher Dieu. Quand la crainte vient, vous allez chercher Dieu. Avant même de présenter votre problème à Dieu, vous allez passer un temps dans la louange. Vous allez lui dire à quel point il est merveilleux et le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé. Et ensuite, vous pouvez mentionner votre besoin. Et c'est ce que Josaphat a fait ici, si vous prêtez attention. Verset 13. Tout le peuple de Juda se tenait devant le Seigneur avec leurs enfants et leurs femmes. Ils ont attendu. Croyez-moi, l'attente, rien ne révèle ce qu'il y a de pire en nous comme une bonne attente. Apprenez à bien attendre. Apprenez à attendre le Seigneur. L'exaucement dont vous avez besoin exige peut-être l'attente. Pendant l'attente, que va-t-il arriver? Est-ce que tout le monde comprend ça? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Mais Dieu ne dit rien. Ça fait 3 jours déjà, ça fait 2 semaines déjà, ça fait 3 mois, Dieu ne dit rien. Dans ces moments-là, vous devez dire, au bon moment, Dieu interviendra. Si j'ai besoin d'un exaucement aujourd'hui, je l'aurai aujourd'hui. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne faiblissent pas. J'aime beaucoup ces versets. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Et il y a quelque chose d'autre, et c'est si important que vous le compreniez ce soir. Pendant l'attente de votre exaucement, vous êtes libre de jouir de votre vie. Oh! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Pendant que vous avez un problème, vous n'avez pas à être malheureux. Vous êtes libre de jouir de votre vie pendant que Dieu change votre enfant qui est sur le point de vous rendre fou. Vous êtes libre de jouir de votre vie pendant que Dieu travaille sur votre mariage. Vous êtes libre de jouir de votre vie même pendant que les choses dans vos circonstances ne sont pas parfaites. Vous feriez aussi bien de jouir de votre vie. Ça ne va vous aider en rien d'être malheureux. Ça ne va pas résoudre votre problème et ça ne montre pas que vous faites confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, la joie vient. J'ai écrit ceci et j'ai tracé un grand cercle rouge tout autour. Juste là. Une personne joyeuse avec un problème est une personne puissante. Une personne joyeuse avec un problème est une personne très puissante, car la joie du Seigneur est notre force. Le diable sera sur le point de faire une grande dépression quand il fait tout ce qu'il peut faire pour nous rendre malheureux et que nous sommes toujours heureux, nous aimons les autres, nous jouissons de la vie et nous faisons confiance à Dieu. Bien, continuons. Donc, ils attendent. Dieu parle. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur, verset 14, fut sur Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yehiel, j'ai pu lire les noms, fils de Matania, Lévi d'entre les fils d'Azaph, au milieu de la congrégation, et il dit, « Faites tous attention, peuple de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous dit le Seigneur, ne craignez pas et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Demain, maintenant il donne l'instruction. Demain, descendez contre eux, les voici qui montent par la montée de la fleur, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée devant le désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Prenez vos positions, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, prenez vos positions, tenez-vous là. Et au moment où il commençait le chant et la louange, le Seigneur mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui venaient contre Juda, et ils se battirent entre eux. Ils se sont entretués. Leurs ennemis étaient très désorientés par la louange et l'adoration. Le diable était si embrouillé pour ne pas avoir pu troubler le peuple qu'il est entré dans le camp et les ennemis se sont entretués. Ils ont commencé à se tuer. Allez, louez le Seigneur!